Bonjour à chacun. Vous l'avez peut-être déjà perçu au travers de paroles de Célia, c'est un message qui va nous parler de saine doctrine et surtout de l'impact que ça peut avoir dans nos vies. Alors la saine doctrine, c'est la parole de Dieu, donc je vais vous inviter à vraiment vous armer déjà dès le départ de la parole de Dieu, selon le support qui vous convient, mais je pense que on va avoir besoin de puiser dedans, d'aller chercher dedans tout ce dont nous avons besoin, parce que c'est ce que le Seigneur a prévu pour nous, de nous abreuver à sa parole. Et en particulier, cette année, comme vous le savez, on a une grande partie de nos messages qui sont basés sur le livre de Tite, que nous utilisons pour vraiment nous apporter des messages qui nous permettent de grandir en sagesse, notamment en tant qu'Église, d'avoir une Église en meilleure santé, mais aussi que ça a un impact sur la vie de chacun d'entre nous. Donc je vous invite déjà à ouvrir votre livre, votre Bible, dans le livre de Tite. Donc c'est juste pour un rappel rapide. C'est vrai que c'est une lettre de l'apôtre Paul, et dans cette lettre, au début de ce livre, dans le premier verset, il se présente de la manière suivante. Pour bien donner du crédit à tout ce qu'il va pouvoir nous dire dans cette lettre. Donc Paul nous rappelle, et je vais le lire au verset 1, « Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu à la connaissance de la vérité, qui est selon la piété, lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps, par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de notre Sauveur. » Donc Paul se présente avant tout comme un apôtre de Jésus-Christ, comme un disciple de Jésus-Christ, et c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre tout ce qu'il aura à nous dire dans le cadre de cette lettre, et en particulier ce matin. Et c'est vrai, nous avons à cœur, au travers de ce livre de Tite, de tirer des enseignements pour la bonne santé de notre assemblée, pour chacun d'entre nous aussi, comme je le disais, et nous en nous appuyons en particulier sur les instructions que l'apôtre Paul donne à Tite, qui est en quelque sorte son fils spirituel, et qui va charger d'une mission très délicate. C'est une mission pour remettre de l'ordre dans les églises et au milieu des chrétiens de l'île de Crète. Dans l'île de Crète, les chrétiens subissent un contexte qui est assez compliqué, qui est assez particulier, on va revenir là-dessus, avec des problèmes qui viennent à la fois de l'intérieur de l'Église et de l'extérieur de l'Église. Et c'est notamment ce que nous pouvons voir concernant les instructions que l'apôtre Paul donne à Tite. Nous pouvons le lire à partir du verset 4. « À Tite, mon enfant légitime, en outre comme une fois, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. » Donc la première instruction de Paul pour remettre de l'ordre dans les églises chrétiennes était de choisir, comme on l'a déjà vu au cours de prédications précédentes, des anciens d'église. Les églises, en fait, pour revenir sur le contexte, en Crète, étaient des petites églises. Je pense que la plupart devaient même être des églises de maison, donc de petite taille. Et elles souffraient notamment de ne pas pouvoir s'appuyer sur de bons dirigeants. Soit parce que ces dirigeants-là, visiblement, n'avaient pas toutes les qualités requises, soit parce que certains étaient même carrément nuisibles à l'Église. Ils recherchaient en premier lieu leur profit personnel en enseignant de fausses doctrines qui induisaient les fidèles dans l'erreur. Donc c'était une situation qui était vraiment préoccupante pour les églises de Crète. Dans ce que je dirais le moins mauvais cas, les fidèles, donc des dirigeants qui n'avaient peut-être pas toutes les qualités requises, les fidèles n'étaient pas édifiés par le comportement de leurs dirigeants, qui étaient du coup inadaptés. Ils ne prenaient pas toujours Christ comme modèle dans leur vie tous les jours. Et ça, c'était très très inquiétant pour la santé de l'Église, si des personnes qui sont censées être devant et être des modèles, mais finalement ne s'appuient pas sur Christ pour ce qui est de leur vie tous les jours. Et ça explique notamment le portrait qui a été défini par Paul à l'attention de Tite pour avoir un meilleur choix pour les dirigeants, pour les anciens des églises de Crète. Et il faut se mettre dans ce contexte-là. Et on le voit, ce qu'on peut lire dans la suite de notre passage. Et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, et s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. Dans ce que j'appellerais le pire des cas, les fidèles pouvaient être complètement induits en erreur par l'enseignement de fausses doctrines qui contredisaient carrément la parole de Dieu et par conséquent ne permettaient pas à ceux qui l'écoutent de s'attacher vraiment à la vérité de l'Écriture. Je pense que leur salut pouvait se trouver sérieusement menacé de ce fait de ne pas recevoir un enseignement juste. Et ça explique aussi ce que nous lisons dans la suite des instructions de Paul pour le choix des anciens plus dignes de confiance. Donc il poursuit en disant « Attachez à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Dans les instructions de Paul pour les anciens d'Église, il y a deux choses qui apparaissent finalement absolument nécessaires pour le choix des anciens et en particulier pour la bonne marche des églises. Il faut d'une certaine façon être irréprochable par leurs œuvres pour les anciens d'église et par une sorte de démonstration extérieure de la réalité et de la solidité de la foi qu'ils ont à l'intérieur. Donc ça, c'était un des critères qui était énoncé par Paul, qu'on puisse voir à l'extérieur la réalité de ce qui se passe à l'intérieur pour les anciens de l'Église. D'autre part, Paul donne aussi comme dernière instruction pour le choix des dirigeants qu'ils soient vraiment attachés à la parole, dans toute sa vérité et dans toute son authenticité. Ils doivent être totalement fidèles à la parole de Dieu dans leur enseignement, sans aucune concession, ni détournement ou déformation intentionnelle pour des motifs obscurs. C'est une exigence qui est absolument fondamentale, notamment dans le but de se positionner clairement en opposition aux fausses doctrines qui pouvaient avoir trait à l'intérieur de cette église et qui étaient proclamées par certains, comme décrit par Paul, comme rebelles, vains discoureurs et séducteurs. Ces personnes devaient être d'urgence réduites au silence, car ils bouleversent des familles entières enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Alors si je peux résumer un peu ce que l'apôtre Paul préconise pour s'attaquer à cette menace, à ce type, ces deux menaces qui viennent de l'intérieur de l'Église, notamment soit à cause de dirigeants mal choisis, soit à cause de dirigeants qui sont carrément nuisibles, on remarque que le plan d'action de Paul, il associe deux choses, les bonnes œuvres qui sont visibles et la fidélité à la parole authentique, à la saine doctrine, pour employer aussi une autre terminologie. Je vous laisse déjà ça là et je continue, on va revenir là-dessus. Mais on a vu aussi, comme je l'ai cité, que le danger pour les églises ne venait pas que de l'intérieur. Il pouvait venir aussi de l'extérieur. À l'extérieur aussi, ces églises subissaient des attaques très très sérieuses, contre leur intégrité, contre leur bonne croissance. Cela venait notamment du contexte particulier de la société crétoise, qui était notoirement bâti sur de très mauvaises valeurs, sur de très mauvaises habitudes. Et on peut lire au verset 12, et c'est dit de façon très très claire par l'apôtre Paul, « L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, « Crétois, toujours méchant, méchante bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi, reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Là, on voit que les Crétois étaient connus de très mauvaise réputation. Les mots employés sont vraiment extrêmement négatifs, même carrément blessants. Il est précisé en plus que c'est la vérité. Il était de notoriété publique qu'ils avaient ce caractère-là, globalement. Ici, on a en quelque sorte le contre-exemple des bonnes œuvres. Là, on observe les gens par rapport à ce qu'ils finalement produisent et on voit des œuvres qui sont extrêmement négatives. Ce sont de très mauvaises œuvres et je pense que personne parmi nous n'aimerait qu'on parle de lui en ces termes, en des termes aussi négatifs. Ce serait même, je pense, en particulier pour des chrétiens, carrément tragique qu'on puisse employer ce type de terme pour parler de nous. Mais en fait, ce qui est triste, c'est que dans cette description, Paul inclut des chrétiens qui fréquentaient les églises. Il ne parle pas simplement des Crétois d'une manière générale, mais de la manière dont il le dit, on comprend que des chrétiens qui fréquentaient les églises étaient aussi englobés dans cette description. Ils n'étaient pas exemptés du lot, ils n'étaient pas exonérés de ces défauts. Au contraire, l'apôtre Paul semble indiquer ce comportement, mais se retrouve aussi parmi les chrétiens. Et du coup, moi, ça me pose une question qui est vraiment troublante. Est-ce qu'on peut, en tant que chrétien, né de nouveau, héritier des promesses qui sont faites aux élus, disciples de Jésus-Christ, en même temps, et qu'on ait un témoignage de notre vie qui soit celui-là que l'apôtre Paul décrit. Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Et ce témoignage est vrai. Ça, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui me paraît totalement incompatible. Et c'est pour ça que je pense que l'apôtre Paul poursuit en disant qu'il est vraiment nécessaire d'agir immédiatement et avec beaucoup de fermeté, mais aussi avec justice. Et il poursuit dans notre texte, dans Tite, au chapitre 1, « C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. » Pour faire face à cette menace qui vient de l'extérieur, à des valeurs de la société en Crète à ce moment-là, de leur arrière-plan culturel, l'apôtre Paul applique des mesures, finalement, qui sont, encore une fois, à deux volets. S'attaquer aux œuvres mauvaises, d'une part, et apporter une correction en s'appuyant sur l'Évangile. Il y a toujours ces deux côtés, les œuvres et la saine doctrine. Le but, c'est que les chrétiens aient une foi saine, un vrai attachement à Christ, une vraie communion avec Dieu, une foi saine qui s'appuie sur de mauvaises œuvres dans le temps, qui sont corrigés pour devenir de bonnes œuvres, sur un enseignement authentique. C'est vrai que la foi, c'est aussi quelque chose qui permet de nous transformer. C'est vrai que quand nous nous convertissons, nous ne sommes pas forcément parfaits. Nous nous convertissons, Dieu nous aime comme nous sommes. Il nous aime tel que nous sommes. Et c'est vrai que quand nous acceptons de suivre Jésus-Christ, nous venons comme nous sommes, avec notre arrière-plan culturel notamment. Mais ça ne veut pas dire que nous devons rester comme nous sommes. Et c'est vrai que l'idée aussi, il y a cette idée de ce cheminement avec Jésus-Christ qui va nous transformer, qui va nous emmener de là où nous sommes, à une nature qui va être totalement différente. Prenons un peu de recul pour imaginer que nous ne sommes plus en Crète, mais nous sommes à Brunois. Et qu'il soit de notoriété publique à Brunois, Épinay-sous-Sénart, Hyères, Montgeron, que les membres de l'église évangélique de Brunois sont toujours menteurs, méchantes bêtes, ventre paresseux, et que ces témoignages soient vrais. Ou en allant plus loin encore, imaginons que le monde entier ait de bonnes raisons de penser que les chrétiens en général sont toujours menteurs, méchantes bêtes, ventre paresseux, et que ces témoignages soient vrais. Vous voyez où je veux en venir. Lorsque nous lisons Tite, gardons-nous de penser que les églises crétoises étaient les seules qui pouvaient être confrontées à ce type de problème. Nous sommes tous concernés par ce type de problème. Nous aussi, dans cette salle, nous avons tous un arrière-plan culturel. Et il est difficile de s'en détacher en un claquement de doigts. Et en particulier, c'est vraiment compliqué, quand nous nous convertissons, de nous détacher de finalement tout ce qui était nos habitudes anciennes, même si nous nous rendons compte qu'elles sont, parce que nous nous référons à la saine doctrine, qu'elles sont contraires à la parole de Dieu. C'est quelque chose que nous avons tendance à traîner encore avec nous pendant un certain temps. Nous aussi, dans cette salle, nous avons un arrière-plan culturel qui influence nos actes, soit à cause de notre éducation, soit à cause de nos origines, soit à cause de nos habitudes, bonnes ou mauvaises, soit à cause de nos fréquentations, soit à cause de nos anciennes croyances aussi. Et c'est vrai que c'est compliqué, comme je le disais, de s'en détacher du jour au lendemain. On est, nous aussi, au même titre que les chrétiens de Crète, concernés par ce que l'apôtre Paul a à nous dire dans ce livre. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat et poser les questions de façon transparente. Est-ce que pour des chrétiens, il y a des actes qui nous disqualifient de l'éligibilité au royaume de Dieu? Est-ce que lorsque nous avons accepté Christ comme Seigneur et comme unique Sauveur, nous dépendons encore de nos actes pour être sauvés? Est-ce que nous pouvons reconnaître les uns et les autres dans la salle comme appartenant à Christ ou pas, simplement en observant leurs œuvres? Parce que oui, finalement, quand on regarde le texte, les critères de sélection de l'apôtre Paul s'appuient sur les œuvres qui sont réalisées par les uns et les autres. Donc ça soulève aussi ce type de questions. Je pense qu'on a besoin, quelque part aussi, d'avoir de bonnes réponses à ces questions-là. Mais c'est vrai que c'est le genre de questions qui font tout de suite monter le stress dans l'église, dans la salle. Quand on les pose de cette façon, chacun aussi a à cœur de s'examiner et se poser la question, mais est-ce que je peux me retrouver dans ce type de cas? Qu'est-ce que finalement je fais au jour le jour qui puisse faire que finalement je sois pas conforme à ce que dit l'apôtre Paul dans ce texte? Et moi le premier. Et c'est vrai que, comme je le disais, quand l'apôtre Paul édicte des principes pour choisir les anciens dans les églises de Crète, il s'appuie sur des critères observables, sur la manifestation extérieure de la foi par les actes, pour déterminer ce qui a besoin d'être corrigé ou pas, pour déterminer aussi, finalement, qui a la capacité d'être choisi pour exercer un ministère dans l'église, notamment en Crète. Et je pense que le risque que l'on pourrait prendre à faire une interprétation trop rapide et sortie de son contexte, c'est de considérer les actes seuls sans la foi. Or, comme on l'a dit, comme on l'a redit encore, seule la foi sauve. Le problème est que la foi n'est réellement observable que pour Dieu. Et que nous, les hommes, nous sommes très limités. Nos yeux ne peuvent voir facilement que les œuvres. Alors, pour aller un peu plus loin dans cette réflexion, je vous propose de promener un peu dans notre Bible et d'aller dans le livre de Jacques, dans un texte que vous connaissez très bien, dans Jacques au chapitre 2, qui nous apporte un éclairage peut-être un peu différent aussi. Donc, Jacques au chapitre 2, à partir du verset 14. Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir, mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit ». Sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle est seule, sans se traduire en acte, elle est morte. Je pense que ce texte est assez clair. D'une certaine manière, quand on regarde dans les Écritures, ce passage en particulier, il justifie la méthode que Paul a employée. Mais encore une fois, c'est une méthode. Ce n'est pas un dogme. C'est une méthode que Paul propose à Tite pour, finalement, faire un choix avec sagesse. Mais c'est aussi une méthode qui trouve un appui dans la parole. C'est une méthode qu'on peut considérer avec sérieux. Mais l'apôtre Paul ne s'est pas uniquement arrêté à un discours de la méthode quand il donne des instructions à Tite pour aider à édifier les églises de Crète. Lui aussi, il a à cœur de s'appuyer sur la vérité de la parole. Des vérités qui, elles, pour le coup, ne souffrent aucune discussion. Et Paul s'arrête un instant pour revenir à la doctrine. C'est toujours important de revenir à la saine doctrine, de toujours s'appuyer dessus. Et il revient à la doctrine pour énoncer des vérités qui ne dépendent pas du contexte de l'Église de Crète. Parce que oui, c'est vrai, nous avons besoin de nous préoccuper de manière pratique de notre organisation, de notre gouvernance, le choix des dirigeants, l'organisation du culte, les études bibliques, les réunions des hommes, des femmes, des jeunes, des ados, la tenue des comptes, la bonne marche administrative de l'Église. C'est vrai que notre Église est aussi une association culturelle et même culturelle aussi en plus. Et pour tout ça, nous avons besoin de besoins pratiques, de conseils pratiques pour que tout ça marche bien. Mais tout cela n'a de sens aux yeux de notre Seigneur et vis-à-vis de notre salut que si tout ça est fait dans un état d'esprit qui vise en premier à se conformer à la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est ça qui est l'essentiel. Le reste n'est que des choses qui tournent autour pour que ça marche bien, mais l'essentiel, tout ce que nous faisons, n'a pas de sens si nous n'avons pas à cœur en premier lieu de nous conformer à la bonne nouvelle de l'Évangile, à la parole de Dieu, dans toute sa vérité, sans qu'elle soit déformée ou détournée de quelque manière que ce soit. C'est vrai que tout ce que dit Paul est sensé, et ses instructions relèvent du bon sens, dans le but que les églises de Crète et que l'église de Christ dans son ensemble qui reprend ce texte soient en bonne santé et rendent gloire à Dieu. Mais au-delà du bon sens, il y a la bonne doctrine, la saine doctrine. Et il faut toujours y revenir pour bien s'assurer que l'on reste conforme à la volonté du Seigneur. Ça permet aussi de s'assurer qu'on comprend bien, qu'on interprète bien les choses de la bonne manière quand nous faisons des choix. Non pas selon notre propre intelligence, mais selon ce que Dieu veut vraiment nous ordonner de faire, nous enseigner pour notre édification. Et c'est vrai que quand, dans les versets suivants, l'apôtre Paul revient à la saine doctrine, il écrit « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. » Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Aujourd'hui, comme de tout temps, nous vivons dans une société où chacun a à cœur de se créer sa propre religion. Une religion qui lui convient bien, selon les choses qu'il trouve bien ou mal ou agréables. Et donc chacun se crée en fait ce qu'il considère comme étant de bonnes œuvres, positives selon son propre jugement. En particulier, tout le monde, les gens, d'une manière ou d'une autre, ils ont à cœur de faire des choses positives. Nous avons tous à cœur, qui que ce soit tous les hommes, d'être considérés de façon positive. Personne n'a envie d'être considéré comme méchant, a priori. Et donc nous pouvons observer autour de nous, comme mon frère Cyril le partageait aussi, que les gens, ils ont à cœur de faire de bonnes choses, notamment, c'est une façon aussi de rechercher le bonheur, pour la terre, pour les hommes, pour les animaux, pour les plantes, de sorte que chacun, d'une certaine façon, se purifie un peu lui-même au travers des pratiques de son choix. et de ses propres critères. Je vais prendre mon exemple personnel dans mon lieu de travail. Moi, je travaille dans l'industrie de la finance. Et depuis quelques années, cette industrie s'est découvert un nouveau dieu, un nouveau leitmotiv. C'est la planète Terre. Il faut être agréable à la planète Terre, préserver son avenir. Il faut pour cela privilégier ce qu'on appelle des investissements durables. Le bien-être de la Terre, la préservation du climat, des espèces en voie de disparition, la réduction des émissions de carbone, l'arrêt de la déforestation, la dénonciation des inégalités dans la société, de préférence dans les pays lointains, en Afrique, au Moyen-Orient. En général, on ne regarde pas trop à côté. Voilà ce qui est devenu le thème principal qui doit gouverner nos investissements financiers. Et je suis sûr que vous êtes confrontés à ça aussi tous les jours, que ce soit au travers de la télé ou même, par exemple, quand vous allez voir votre banquier ou votre compagnie d'assurance, ils vont vous parler, ils ne parlent plus que de ça. Par exemple, pour vos placements à long terme, votre banquier sera extrêmement fier de vous dire qu'il a choisi des supports d'investissement durable qui ne mettent pas en péril la survie de la planète. Même à la publicité, à la télé, ne tourne plus qu'autour de ça. Les pots de Nutella, par exemple, vous expliquent qu'ils n'utilisent plus d'huile de palme. Voilà, c'est devenu le principal argument de vente pour tout le monde. Que de bonnes intentions, que de bonnes œuvres, avec des motivations très positives. La semaine dernière, par exemple, j'ai une collègue qui m'a expliqué qu'en fait, chaque fois qu'elle devait partir en vacances, qu'elle devait prendre l'avion, elle se rendait compte qu'elle allait avoir un impact sur la planète, ce qu'on appelle son empreinte carbone. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle plantait 2 ou 3 arbustes avant, en se disant, ben voilà, par rapport à l'impact que je vais avoir du fait de prendre l'avion, je compense en plantant des arbres, et au final, je me sens bien. Voilà, j'ai fait une bonne action, et ça compense. Mais c'est aussi pour se rendre compte qu'il n'y a pas que les chrétiens qui ont à cœur d'avoir un impact positif. Mais le problème, c'est que chacun se crée un peu sa propre religion et sa manière de faire du bien-être et se pense trouver le bonheur de cette façon-là. Et je passe, en région parisienne notamment, sur l'explosion de l'utilisation des vélos, des trottinettes, des voitures hybrides ou électriques. Tout ça dans le but de préserver notre planète. Tout le monde s'y met. Beaucoup de bonnes intentions, même si on sait que les réalisations ne sont pas toujours parfaites. On se pose des questions par rapport à ce que vont devenir les batteries des voitures électriques. Je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet-là. On verra bien si, finalement, avec toutes ces bonnes volontés, on réussit à inverser le cycle aujourd'hui pour la Terre, qui est plutôt extrêmement négatif. Et parce qu'on sait qu'effectivement, les conditions de vie sur Terre se dégradent rapidement à cause de l'impact de l'homme. Nous avons tous au fond de nous ce désir d'être une bonne personne. Et souvent aussi d'être vu comme une bonne personne aux yeux de nos concitoyens. Certains qui s'intéressent à Dieu pourraient se dire ceci par exemple. Si je fais beaucoup de bien autour de moi, cela pourrait être comptabilisé à mon crédit. Et je peux peut-être aller au paradis grâce à des bonnes actions qui vont compenser mes défauts. Et c'est vrai qu'en toute sincérité, nous aussi, en tant que chrétiens, même en nous appuyant sur la saine doctrine, nous avons à cœur d'œuvrer pour le bien-être de cette planète. Et en premier lieu, d'œuvrer pour le salut des âmes. Propager l'amour de Jésus-Christ autour de nous, selon ce que recommande la parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous avons conscience que c'est dans le salut des âmes que se trouve l'essentiel et le plus important pour la vie de chacun. Et que finalement, les bonnes œuvres, les bonnes intentions qui en découlent ne seront que des conséquences de ça. Quel est le point de vue de Dieu par rapport à toutes ces bonnes intentions que je viens de citer, par rapport à toutes ces bonnes pensées, toutes ces bonnes œuvres? Est-ce qu'il y a réellement une différence, finalement, à votre avis, entre les bonnes œuvres qui sont faites au nom de Christ et les bonnes œuvres d'inspiration païenne ou autre? Est-ce que finalement l'attachement à Christ ne serait qu'une option facultative? dont on peut se penser éventuellement du moment qu'on fait du bien. Je vous le dis tout de suite, la parole de Dieu nous dit tout le contraire. Et ça, sans aucune ambiguïté, sans le moindre doute. Tout ce qui est, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. C'est vrai que c'est une position qui est vraiment très radicale. C'est compliqué d'aller dans la rue et de dire à quelqu'un « Tout est pur pour moi parce que je suis chrétien, mais tout ce que tu fais est complètement souillé tant que tu ne t'appuies pas sur Jésus-Christ. » C'est compliqué de tenir ce discours à des personnes dans la rue, même s'ils sont de bonne volonté et qu'ils veulent faire des bonnes choses. Moi, nous, en tant que chrétiens, ce que nous pouvons faire, c'est nous appuyer sur la parole de Dieu, sur la saine doctrine, pour expliquer et pour comprendre aussi quel est le sens de ces paroles. Et en particulier, je vous propose d'aller dans 2 Timothée, au chapitre 4. À partir du verset 1. 2 Timothée, chapitre 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sobre en toute chose, supporte les souffrances et fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Là, il est clair que la parole de Dieu nous appelle à ne dévier ni à gauche ni à droite de ce qu'elle dit, et quelle est la vérité, et que nous n'avons pas besoin de la contourner. La parole de Dieu nous dit que la pureté de nos actes sera jugée selon la pureté de notre cœur, selon les principes de la saine doctrine, celle qui figure dans la Bible et qui nous enseigne que nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Aucun de nos actes ne peut être considéré comme juste aux yeux de Dieu qu'à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Ce sacrifice qui nous sanctifie et qui nous rend purs aux yeux de Dieu. Parce que Dieu nous voit au travers de Christ, qui n'a commis aucun péché, qui est resté pur et qui a accepté de mourir à notre place, afin que quiconque croit en lui soit sauvé et qu'il ait la vie éternelle. La bonté, la bienveillance, l'amour et les œuvres bonnes, d'une manière générale, ne sont pas réservées qu'aux chrétiens. Mais finalement, seul le sacrifice de Christ à la croix permet à nos œuvres de trouver grâce aux yeux de Dieu. Alors ne perdons pas de vue l'essentiel, qui est le salut en Jésus-Christ. Car nos œuvres sans Christ, elles sont irrémédiablement souillées par le péché et disqualifié aux yeux de Dieu. Mais il y a plus grave encore, parce que sans Jésus-Christ, ce ne sont pas simplement nos œuvres qui sont disqualifiées aux yeux de Dieu, mais c'est toute notre personne. Rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Il n'y a pas d'autre alternative que d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour être sanctifié aux yeux de Dieu. Mais accepter Jésus-Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que se lever pour le suivre, comme lorsqu'il appelait ses disciples, les apôtres, il leur demandait « Lève-toi et suis-moi ». Il ne leur disait pas « Tu m'appartiens, mais tu restes là et moi je continue mon chemin sur la gauche ». il leur disait, lève-toi et suis-moi. Ça veut dire se lever et suivre Jésus sur poursuivre le chemin que lui, il a tracé pour nous. Lui obéir, se conformer à ses enseignements. L'acceptation de Jésus ne peut pas être passive. En restant tel que nous étions avant. J'accepte Jésus, mais je ne change rien. Sans la moindre évolution. Et l'apôtre Paul a des instructions très sévères pour Tite au sujet des chrétiens qui ne produisent pas du fruit de la repentance, mais au contraire qui restent attachés à leurs mauvaises habitudes du passé. C'est une attitude condamnable. Condamnable parce qu'elle manifeste une insoumission à Dieu. Et notre frère Christophe, lors de son partage, dans son message dimanche dernier, nous a présenté les conséquences néfastes que cela impliquait. L'insoumission à Dieu fait des dégâts dans notre vie. En premier lieu, parce que c'est une porte ouverte à l'ennemi. Il en profite pour se glisser à l'intérieur, faire en sorte de nous séparer de Dieu, de nous séparer de la lumière, en nous attirant vers les ténèbres. Si on devait reprendre les choses d'une manière simple, l'obéissance à Dieu produit du fruit de la repentance, tandis que l'insoumission a pour conséquence de nous pousser à faire le mal, par opposition au bien. Notre combat de tous les jours consiste à identifier tous les foyers d'insoumission que nous avons encore en nous, qui persistent encore en nous, et de les combattre avec l'aide du Saint-Esprit. Et la conséquence de ça, de sorte que nos œuvres soient, jour après jour, de plus en plus inspirées par l'obéissance à Dieu, plutôt que résultant d'un foyer d'insoumission que nous avons encore en nous et qui continue de persister. Et ce que nous verrons dans les prochaines prédications, dans le chapitre 2 de Tite, c'est justement d'encourager les chrétiens de Crète à agir de manière à ce que leur appartenance à Christ, qui les transforme de l'intérieur, puisse avoir des effets visibles à l'extérieur, au travers de leurs actes. Mais comme pour eux, nous aussi, nous sommes concernés. Quand nous allons étudier le chapitre 2 en détail, nous allons être fortement incités à accomplir de bonnes œuvres dans notre vie, dans le but que notre vie soit un témoignage authentique de notre appartenance à Christ. Et que cela se manifeste à l'extérieur pour ceux qui nous côtoient et qui nous observent. Il y a un passage qui m'a beaucoup touché, qui en parle de manière édifiante, dans 1 Timothée, au chapitre 6. Qui dit un peu la même chose avec d'autres mots, et qui m'ont particulièrement parlé. Donc dans 1 Timothée, chapitre 6, à partir du verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combats le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce passage, on voit d'abord que Dieu est à l'origine de toute chose. Il est celui par qui et au nom de qui nous agissons. Les instructions qui sont faites à un homme de Dieu pour ses œuvres. Donc, ses œuvres ne sont pas dans le but d'appartenir à Dieu. Il appartient déjà à Dieu. Il est déjà sauvé. Ça, c'est fait. Les instructions, c'est que appartenant à Dieu, mais de finalement produire du fruit de la repentance, avoir des œuvres qui reflètent le fait de cette appartenance. La grâce nous est offerte et elle est totalement imméritée. Et cette grâce, elle est complète et totale. Nul ne peut tirer une satisfaction personnelle de son salut en raison de ses actes. Cependant, des œuvres bonnes découlent de l'appartenance à Dieu. Et ce qui est important aussi de dire, c'est qu'elles ne sont pas optionnelles. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose, ce serait bien. Elles en découlent et c'est quelque chose qui est complètement lié à notre appartenance à Dieu. Au verset 11 que je viens de lire, il y avait écrit, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. » Ce sont des recommandations fortes. Ce sont des principes de base d'une vie chrétienne auxquels nous devons nous conformer pour agir en conformité avec ce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons été appelés à la vie éternelle, choisis par Dieu, sauvés par Christ. Et cet appel nous met en situation active. Nous ne sommes pas passifs. Nous sommes en situation de combat. Un combat contre tout ce qui faisait notre ancienne nature. Notre ancienne nature pécheresse. Cette ancienne nature que nous rejetons lorsque nous faisons le choix de suivre Christ. Combat le bon combat de la foi, au verset 12. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Se souvenir de ce qui s'est passé lors de notre baptême, de notre confession de foi. S'appuyer là-dessus. C'est un combat de tous les jours. C'est un combat jusqu'au retour de Jésus-Christ ou jusqu'à la fin de notre séjour terrestre. C'est un combat aussi que nous ne menons pas seuls. Nous avons le soutien de Dieu dans ce combat. Nous avons le soutien de Jésus-Christ. Nous avons le soutien de celui qui donne vie à toutes choses. Et nous avons aussi Christ comme modèle dans ce combat. Je te recommande, au verset 13, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce passage nous montre que donner sa vie à Dieu nous conduit à accomplir des œuvres bonnes. C'est totalement lié, même si notre nature aujourd'hui reste imparfaite, même si ça n'est pas facile. Même si c'est un combat quotidien. La nature sainte de Dieu à laquelle nous appartenons ne peut pas cohabiter avec une nature qui n'a pas pour but de plaire à Dieu et de se conformer à sa parole. Et l'apôtre Pierre nous dit la même chose avec d'autres mots, avec en plus, par rapport au texte que nous venons de lire, un avertissement. Je vous propose de nous aller dans 2 Pierre, au chapitre 1. C'est une autre manière de voir ce lien entre la vie que nous avons en Jésus-Christ et nos actes. Mais l'apôtre Pierre rajoute aussi un avertissement à la fin. Donc dans 2 Pierre, chapitre 1, je vais lire à partir du verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, elles y sont avec abondance. Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui en toutes choses, celui en qui ces choses ne sont point, est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Dans ce passage aussi, nous voyons que le désir de plaire à notre Dieu par notre vie implique une action de notre part. Nous ne pouvons pas rester oisifs. Nous prenons une part active à la conformité de notre vie avec la parole de Dieu. Nous devons avoir à cœur de plaire à notre Dieu par l'accomplissement d'œuvres bonnes, tout en ayant l'assurance que si parfois nous chutons, nous ne perdons pas pour autant notre salut qui nous est offert par grâce en raison du sacrifice de Jésus. En revanche, se contenter d'être sauvé par Jésus, sans avoir comme but de lui ressembler dans notre vie, sans avoir comme but d'accomplir des œuvres bonnes conformes à sa parole, nous démontre surtout qu'il faut se poser des questions sérieuses concernant notre communion réelle avec Christ. Appartenons-nous vraiment à Dieu s'il se trouve que dans notre vie quotidienne, nous ne lui sommes pas soumis et que nous ne recherchons pas par-dessus tout à lui plaire? Et le verset 9 de 2 Pierre au chapitre 1 nous disait « Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » La manière dont je ressens ce verset, c'est avec un double sens. Alors, c'est une interprétation personnelle, ce n'est pas parole d'évangile, c'est juste mon ressenti que je vous partage. D'une part, il est question d'un oubli, de l'oubli de la purification de ses anciens péchés. D'une part, un oubli, ça marque une rupture dans la connaissance, donc une rupture dans la relation avec Dieu. Si nous oublions ce qui fait l'essentiel de notre vie, ce qui fait le fondement de notre vie en Jésus-Christ, alors c'est compliqué de penser que nous sommes toujours en communion avec Jésus-Christ tous les jours. Il me semble que oublier le sacrifice de Christ, oublier l'œuvre du Christ, de Christ à la croix, c'est oublier le lien qui nous lie à Christ, finalement. Et c'est de ne plus être en communion avec Christ à ce moment-là. L'autre versant de ma compréhension, c'est aussi de se dire, un oubli, ça n'est pas forcément définitif. Ce n'est pas la mort, en tout cas, pas encore. Quelqu'un qui a oublié, il peut retrouver la mémoire. Il peut revenir à la connaissance. Il peut encore changer de voie. Il peut encore revenir sur le chemin qui mène au Père, en reconnaissant toute l'importance du sacrifice de Jésus pour sa vie et pour son salut. Donc, selon moi, ça ne ressemble pas à un cas désespéré, sauf si rien ne change et que l'on demeure dans l'oubli, loin de Christ. Dans notre vie, il y a des œuvres qui rendent gloire à Dieu et il y en a qui renient Dieu. Mais ce ne sont pas nos actes qui nous permettent d'accéder au salut. Le salut n'est possible qu'en Jésus-Christ. Néanmoins, il y a des œuvres qui manifestent une obéissance, une appartenance à Dieu, et il y en a qui manifestent tout le contraire. Et si je reviens, pour terminer, à notre livre de Tite, c'est notamment le cas pour ceux qui sont désignés comme des faux docteurs. Et donc, l'apôtre Paul en parle dans le chapitre 1 de Tite au verset 16. Et là-dessus, il va encore plus loin dans la sévérité de son jugement. Donc, quand il en parle, il dit de ces faux docteurs, « Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. » C'est vrai, en ce qui nous concerne, il nous arrive encore très souvent, trop souvent, je dirais, de commettre des actes qui sont contraires à la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas un motif d'accablement et de découragement. Au contraire, c'est un sujet de prière, c'est un sujet de combat que nous pouvons soumettre à Dieu avec l'envie réelle de ne pas retomber dans les mêmes péchés. Et aussi, avec l'assurance que notre Seigneur qui nous aime et qui veut notre bien répondra à notre prière. Ces chutes aussi ont une valeur, je pense, pédagogique. Parce que quelque part, ça nous rappelle que notre salut ne repose pas sur nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous sanctifier par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous sanctifier par notre propre pureté, notre propre sainteté, mais que sur celle de Christ. Alors, quand nous tombons, nous avons cette recommandation de nous relever et de repartir au combat chaque jour, sans jamais rompre notre communion avec Jésus-Christ. C'est là que réside notre force, dans la parole de Dieu, dans la saine doctrine qui nous sert de guide, qui nous sert aussi d'épée pour le combat, notre combat contre le malin, contre notre ancienne nature, qui cohabite encore, mais plus pour longtemps. Et ça nous ramène pour terminer au premier verset du chapitre suivant, au chapitre 2 de Tite, que je vais lire dans deux versions. Donc, lui second et semeur après. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Et dans la version semeur, il est écrit, toi, au contraire, parle selon ce qui est conforme à l'enseignement authentique. La saine doctrine, c'est le socle et la base de toute réflexion utile pour instruire, pour nous encourager, pour nous édifier aussi. Et ce qui est conforme à la saine doctrine, c'est une vie de sainteté dans l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu utilise la parole pour nous sanctifier. Personne ne peut avancer dans la sanctification, se détacher par rapport au péché, ressembler de plus en plus à Jésus-Christ sans s'appuyer sur la parole. Le but de la saine doctrine, c'est aussi d'aligner ce que nous savons avec ce que nous faisons, d'aligner notre façon de vivre avec la volonté de Dieu. Nous avons donc besoin en permanence d'avoir cette référence. La saine doctrine, non seulement elle nous informe, elle nous transforme aussi. Prédication après prédication, étude après étude, lecture après lecture, partage après partage, jour après jour. La parole de Dieu agit en nous et nous transforme. Elle transforme nos pensées, nos désirs, notre vision du monde, notre manière d'agir et de réagir. Et en guise de conclusion, nous pouvons nous dire que lorsque nous sommes ancrés dans la saine doctrine, nous nous conformons de plus en plus à Christ par nos œuvres, que Dieu a d'ailleurs préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc même dans nos œuvres, Dieu est encore à l'origine. C'est vraiment sur lui, sur Jésus-Christ, que nous devons nous appuyer en toutes choses. Ne manquons jamais de nous replonger le plus souvent possible dans la saine doctrine. Et c'est ce que nous allons encore faire pour terminer ce message. Simplement lire dans Éphésiens au chapitre 2, à partir du verset 1. Éphésiens chapitre 2, à partir du premier verset. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions, par nature, des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen.